Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Ne manque qu'un vote pour une union à gauche, celui du Conseil national du PS qui s'ouvre à l'instant. Pas une partie de plaisir dans un parti fracturé. Et après l'union à gauche, celle de la majorité s'affiche aujourd'hui. Photo de famille en marche, Horizon, Modem, la bataille des législatives bel et bien lancée. L'actualité, c'est encore l'Ukraine. Le cessez-le-feu promis par les Russes à Marioupol n'a pas duré. Les contaminations des pizzas Buitoni semblent s'élargir à de nouvelles gammes. Plusieurs plaintes en train d'être déposées. Et puis deux infos marseillaises. Le foot, OM Rotterdam ce soir, demi-finale de la Ligue Europa Conférence, la petite Coupe d'Europe. Et puis la fin de Plus belle la vie, le feuilleton de la 3 s'arrêtera à l'automne après 4500 épisodes quand même. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, trop gras, trop sucré, trop salé, trop lourd. On va parler obésité ce soir après un rapport très alarmant de l'OMS qui parle même d'épidémie, qui donne des chiffres européens qui ont de quoi nous inquiéter. Vous imaginez que les confinements n'ont rien arrangé? On verra grâce à vous et vos questions comment lutter aussi contre ceux qui fabriquent les aliments qui font grossir. Et ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc l'heure du vote et juste avant sans doute de la grande explication. Conseil national du Parti Socialiste ce soir, 300 membres qui sont soit en visio, soit physiquement présents au siège du parti à Ivry en région parisienne pour valider l'accord trouvé avec les Insoumis. Et il y a de vraies divisions, on l'a vu, François Hollande récuse l'accord, Bernard Cazeneuve quitte le parti alors que Martine Aubriel, malgré des réserves, pense qu'il faut signer. Est-ce que le PS peut imploser ce soir? Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Tout le monde est en train d'arriver, on l'a compris, ça va être agité.
Absolument, même si la boutique de l'autre côté de la rue ici vend des produits de bien-être et de relaxation, elle est tendue, cette ambiance au siège du Parti Socialiste avec des représentants qui arrivent au compte-gouttes, conscients de l'enjeu et plus ou moins heureux à l'idée de devoir laisser à la France Insoumise la majeure partie des circonscriptions. Écoutez, Christian Fauveau et Johan Nedelec qui représentent le Finistère.
C'est un accord à 70 circonscriptions sur 577. On a négocié cet accord dans une position qui était difficile. On fait nous-mêmes en Finistère des sacrifices et c'est jamais simple. Bah, chacun va devoir voter en responsabilité, donc on sait quel message ça enverrait dans l'opinion d'invalider cet accord maintenant. Moi je fais confiance aux uns et aux autres pour être responsables dans la situation qu'on traverse.
Ouais. C'est une responsabilité. Ouais.
Ça va être animé, on l'entend Antoine, mais il y a de fortes chances que ça passe.
Absolument, parce que même si les opposants à l'accord ont prévu de se faire entendre, tous ne voteront pas contre ce soir. La Fédération de Paris, notamment, va sans doute s'abstenir, à l'image d'Anne Hidalgo, l'ex-candidate socialiste, critique un texte irrespectueux des personnes et qui ne porte pas les garanties nécessaires sur l'OTAN, sur l'Europe de la défense, sur la laïcité, sur les valeurs universelles. Elle ne veut pas, pour autant, empêcher le rassemblement de la gauche. D'autres sont plus critiques dans le sillage de Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, qui dénonce un reniement des valeurs du Parti Socialiste et des jeux d'appareil. Réponse de l'autre côté de Sébastien Vincini, le secrétaire aux fédérations du Parti Socialiste. Il fait partie de ceux qui ont négocié l'accord.
Elle se trompe. Le vrai débat, il y a eu lieu au moment des présidentielles. Je crois que ça a été tranché. Le socialisme avec le drapeau, il a fait 1,7 point. L'affirmation a fait 1,7 point. À l'Assemblée nationale, il faut une majorité de gauche dans son pluralisme. Je crois que c'est ça que nous sommes en train de bâtir.
Vous l'avez compris, deux visions de l'avenir du Parti Socialiste s'affrontent ce soir. En théorie, les discussions doivent durer 2h30, mais plusieurs cadres le précisent déjà. La soirée pourrait se prolonger tard dans la nuit.
Antoine Gignot avec Geoffrey Marianan, direct d'Ivry. Que changerait l'union à gauche au rapport de force dans chaque circonscription? C'est une carte et un article à lire sur franceinter.fr. Notez aussi que Jean-Luc Mélenchon sera l'invité de l'émission Questions politiques dimanche à partir de midi. Et de son côté, la majorité veut renaître littéralement. Le parti LREM, La République En Marche, change de nom pour Renaissance. Décision du bureau exécutif ce midi. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Un bureau qui acte aussi l'alliance à trois pour les législatives. En Marche, Renaissance donc, Modem et Horizon. Jolie photo de famille, Richard Ferrand, François Bayrou, Édouard Philippe.
Les mêmes Ferrand et Bayrou qui avaient failli en venir aux mains sur les investitures en 2017, les mêmes Bayrou et Philippe qui entretiennent des relations tendues depuis 5 ans, mais aujourd'hui, que voulez-vous, ils sont heureux.
Nous avons quand même passé du bon moment, en tout cas les choses se sont déroulées dans la bonne humeur.
Ce sont les négociations qui sont passées dans le meilleur climat que j'ai jamais rencontré.
Et je veux saluer François et Richard qui ont été remarquables dans cette discussion.
Voilà, elle est unie, la majorité. Il n'y aura, assure-t-il, aucune candidature dissidente. Unie, mais pas uniforme, précise Édouard Philippe.
Nous sommes ensemble parce que nous ne sommes pas identiques. Si nous étions identiques, nous ne nous appellerions pas ensemble. nous serions un seul.
Ensemble, avec un point d'exclamation, une confédération. Ce n'est pas le mouvement unitaire évoqué par le président au soir du premier tour, mais c'est déjà un bon moyen de railler la gauche et son alliance.
Nous, ce que nous disons aujourd'hui, ce que nous affirmons, c'est que nous ne cédons pas nos convictions à quelques circonscriptions.
Stanislas Guérini, le patron d'En Marche ou donc de Renaissance. Alors, pas une affaire de circonscription. Rassurez-nous, François Bayrou, tout le monde est satisfait des négociations.
La réponse à votre question est oui. On n'aurait pas signé autrement.
Pas une question comptable, donc, mais un peu quand même. 58 candidats pour Horizon, 101 à 110 pour le Modem, 400 pour le parti présidentiel, ce qui doit permettre à Emmanuel Macron d'obtenir la majorité absolue sans rien devoir à ses alliés.
Simon Le Baron, et puis, elle a beau avoir lancé un appel aux dons, Valérie Pécresse n'accepte pas l'argent de tout le monde. La présidente de la région Île-de-France aurait ainsi refusé le chèque de Nicolas Sarkozy. 2000 euros selon le site d'information Politico. L'ancien président qui ne s'est jamais positionné aux côtés de la candidate LR avant le premier tour, mais a soutenu Emmanuel Macron avant le second.
La France va donner 300 millions de dollars de plus à l'Ukraine.
Un soutien massif, hein. Paris a déjà donné 1,7 milliard de dollars. Conférence des donateurs aujourd'hui, 6 milliards d'aide au total. Parce que la population a besoin de matériel médical, de nourriture. Si la vie a repris plus ou moins normalement autour de Kiev, les Ukrainiens du Donbass, les civils de Mariupol qui ont réussi à s'enfuir, ont besoin de soutien. Quelle est la situation sur place? La Russie promettait un cessez-le-feu ce matin, mais visiblement, il n'a pas duré, Valérie Krova.
Non seulement le cessez-le-feu ne serait pas respecté par les forces russes, mais des soldats seraient entrés dans l'enceinte de la Syrie, selon un conseiller du président Zelensky. Leur objectif, prendre le contrôle de l'immense complexe industriel grâce au soutien de l'aviation russe et anéantir les militaires ukrainiens qui le défendent. Des combats sanglants se poursuivent, dit-il. À l'intérieur de l'usine, 200 civils, dont des femmes et des enfants, attendent d'être évacués, selon le maire de Mariupol, ainsi que des combattants blessés qui ont besoin d'être soignés au plus vite. Azovstal est la dernière poche de résistance des combattants ukrainiens face à l'armée russe qui assiège Mariupol depuis début mars. La reddition de ses défenseurs ou sa prise par les forces armées russes serait une victoire importante pour Moscou, qui entend organiser dans la ville portuaire un défilé militaire le 9 mai, jour où la Russie célèbre sa victoire sur l'Allemagne nazie.
Valérie Krova, conséquence de la guerre, il faut s'affranchir du gaz russe. Et sur ce point, les Européens sont sur une ligne de crête entre la nécessité de trouver une alternative, de sécuriser les approvisionnements et la nécessaire lutte contre le réchauffement climatique. Il y a 2 ans, la France avait annulé un contrat d'importation de gaz de schiste américain signé avec Engie. Mais la guerre change la donne. Volte-face, il y a 2 jours, de l'énergéticien. Il prévoit désormais d'acheter 1 700 000 tonnes de gaz naturel liquéfié américain issu de la fracturation hydraulique interdite en France. Delphine Simon, il s'en est justifié aujourd'hui.
Oui, l'urgence pour Engie, c'est de réduire la dépendance au gaz russe. 20% de son approvisionnement en dépend. Tous les énergéticiens en Europe importent du gaz américain, explique la directrice générale du groupe, Catherine McGregor. Les livraisons de gaz de schiste démarreront donc lorsque le terminal texan de Rio Grande sera inauguré, en principe en 2026. En échange, Engie a obtenu un effort pour l'environnement.
Notre fournisseur, NextGen, pour pouvoir contractualiser avec Engie dans la durée, s'est engagé en particulier sur la liquéfaction à réduire ses émissions de 90%, ce qui est énorme, en faisant de la capture de CO2 et du stockage, et deuxièmement, de contrôler de manière très très attentive l'impact environnemental de la production et du transport de ce gaz.
Des gages qui sont loin de convaincre les ONG du climat, comme les Amis de la Terre, Laurette Philippot.
Ce sont des méthodes qui sont interdites en France pour leur impact environnemental. Ça ne pourra pas être compensé. Les émissions de gaz à effet de serre, notamment de méthane, que provoque ce type d'extraction, de production, de transport, sont vraiment massifs et n'ont vraiment aucun sens à l'heure de l'urgence climatique.
Malgré les polémiques, les États-Unis s'imposent comme le partenaire privilégié du vieux continent. Avant même la guerre en Ukraine, entre novembre et janvier, les volumes de gaz liquéfié américains importés ont quasiment doublé.
L'actualité ce soir, c'est aussi l'OMS qui nous donne une idée des effets dévastateurs de la pandémie de Covid. Une nouvelle estimation estimation du nombre de victimes, entre 13 et 17 millions de personnes dans le monde, beaucoup plus que le nombre officiellement recensé. Et en a-t-on tiré les leçons de cette pandémie, en matière de recherche notamment? Retour d'expérience aujourd'hui de l'ANRS, maladies infectieuses émergentes. Bonsoir Sophie Bécherel.
Bonsoir.
Pour savoir comment mieux faire si ça se reproduisait.
Oui, d'autant qu'on parle à présent d'avoir un vaccin ou un traitement en moins de 100 jours. Objectif radical pour une future pandémie. Parmi les défis à relever, les essais cliniques, ils sont la clé de voûte pour comprendre la maladie, tester l'innocuité puis l'efficacité des traitements. 8000 essais cliniques déclarés sur le Covid-19 qui n'ont pas tous abouti, rappelle France Mantré, chef du service d'épidémiologie et de recherche clinique à l'hôpital Bichat à Paris. Elle plaide à l'avenir pour un pool de personnes formées à la saisie de données.
Lorsque la prochaine pandémie ou épidémie grave interviendra, il faut bien sûr des financements, mais il faut surtout, et c'est ça qui nous a fait défaut, énormément de personnel auprès des médecins dont la mission soit d'aider à faire de la recherche clinique. On appelle ça des techniciens d'études cliniques, des infirmières d'études cliniques et même des médecins d'études cliniques.
Mieux se coordonner à l'échelle européenne semble aussi indispensable, tout comme parvenir à faire travailler ensemble médecins de ville et médecins hospitaliers. Un gage de réussite, c'est d'anticiper pour pouvoir réagir vite. Et pour cela, il faut financer les efforts de façon pérenne, insiste Yazdan Pana, le directeur de l'ANRS.
Ça, c'est quelque chose qui sort de partout. C'est qu'il faut absolument que les infrastructures qu'on met en place, ils n'apparaissent pas au moment de crise et ils disparaissent.
Roger Legrand renchérit. Pour ce spécialiste des thérapies innovantes au CEA, la lutte contre les pandémies est d'autant plus efficace que la riposte a été préparée en amont.
Il faut prépenser un plan de développement. Clairement, si on a une future pandémie, que l'on a un vaccin, mais qu'il faut au début de la pandémie commencer par construire une usine, eh bien, c'est bien entendu des mois, parfois des années, pour que cette usine commence à produire le vaccin. Ça demande une démarche de plan de développement qui doit être préétablie.
Il rappelle aussi l'importance d'un financement public de la recherche. Si BioNTech et Moderna ont réussi à mettre si rapidement sur le marché un vaccin à ARN messager, c'est parce qu'ils ont été très soutenus par l'État allemand et l'État américain.
Et n'oublions pas de donner quelques chiffres qui montrent que l'épidémie en France en ce moment continue de reculer, doucement mais elle recule. On en est maintenant à une moyenne sur 7 jours glissants de 46 000 cas par jour contre 140 000 début avril. Le nombre de patients hospitalisés diminue aussi. Et à 19h13, de nouveaux produits Buitoni pourraient bien être contaminés à la bactérie Escherichia coli. Des pizzas, toujours, de la gamme Bella Napoli et four à pierre. Une plainte a été déposée par une mère de famille à Perpignan et elle n'est pas la seule à évoquer une possible intoxication, Stéphane Père.
Si l'origine de la contamination n'a pas encore été formellement prouvée, plusieurs victimes affirment avoir contracté la bactérie Escherichia coli après avoir consommé d'autres pizzas de la marque Buitoni. Les gammes Bella Napoli et Four à Pierre, deux types de pizzas qui, contrairement à la Fresh Up, sont vendues déjà cuites. Du côté de Perpignan, une femme de 34 ans porte plainte contre Buitoni et Nestlé après avoir mangé une Bella Napoli le 27 mars dernier et avoir souffert deux jours plus tard de diarrhée aiguë, de vomissements et de douleurs abdominales. Du côté de Poitiers, c'est une petite âgée de 7 ans qui a été hospitalisée après avoir ingéré une pizza four à pierre. L'avocat de la famille, maître Richard Legrand, entend porter plainte.
Elle a eu des complications suite à la consommation de cette gamme de produits. La majorité des cas qui ont été déclarés, qui sont avérés, ont été dus à la consommation de la gamme Fresh Up. Mais on peut imaginer qu'il n'y a pas que cette gamme qui soit mise en cause dans le cadre de cette affaire. Peut-être d'autres personnes ont été malheureusement victimes d'autres gammes de cette même marque.
Malgré nos sollicitations, le groupe Nestlé et Buitoni ne nous ont pas confirmé si certains lots de ces deux autres labels Buitoni avaient fait, comme la marque Fresh Up, l'objet d'un retrait.
La marque Fresh Up, déjà visée par une enquête après la contamination d'une cinquantaine de personnes, en majorité des enfants, certains gravement atteints, deux sont même décédés. Au procès des attentats du 13 novembre, la cour d'assises spéciale rouvre depuis hier les plaies des victimes et de leurs proches. 80 personnes souhaitaient encore prendre la parole après les 5 semaines de témoignages de partie civile à l'automne dernier, raconter avec leurs mots leur vie qui a basculé. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Vous suivez l'audience aujourd'hui et le récit de survivants des terrasses.
Mais d'abord, une constitution de partie civile, comme on en a tant vu à cette audience, du moins le croit-on au départ. Constitution de partie civile de la famille de France Élodie au Carillon le 13 novembre, épargnée par les balles, mais, poursuit son avocat à la barre, son traumatisme était si grand, le procès si difficile à supporter, qu'elle a mis fin à ses jours. le 6 novembre dernier. Le suicide, Marie-France y pense aussi, confie-t-elle dans son témoignage à son tour. Depuis l'attentat de la Bonne Bière, elle vit hantée, dit-elle, s'est réfugiée dans l'alcool et n'ose confier ses idées suicidaires à sa mère, de peur de l'inquiéter plus encore. Claire, elle, craint pour sa nièce. 8 ans quand sa mère a été tuée à la Belle Équipe, elle a déjà fait des tentatives de suicide. Aujourd'hui, nous avons peur de la perdre également parce qu'elle est complètement perdue. Même angoisse terrible quotidienne pour Gaëlle, dont la sœur a été très grièvement blessée de 4 balles de Kalachnikov. Ma sœur ne vit pas, elle survit. Si vous lui demandez si elle va bien, elle sourit, mais elle m'appelle parfois pour me dire qu'elle veut mourir, raconte Gaëlle d'une voix rauque. Et je ne passe pas un jour, pas un seul, sans la trouille qu'une fois elle ne m'appelle pas pour ne pas me déranger, souffle-t-elle émue, ou celle d'un jour ne pas trouver les mots.
Charlotte Pierret en direct de la cour d'assises spéciale de Paris sur l'île de la Cité. Et puis au procès de l'accident de car scolaire de Rochefort, l'heure était au jugement aujourd'hui. Le chauffeur du camion dont l'oubli tragique, cette ridelle laissée ouverte et qui a cisaillé le car tuant 6 ados il y a 6 ans, ce chauffeur a été condamné à 50 prisons avec sursis, moins que les réquisitions. Il n'ira pas en prison, Marie-Laurence Dalle.
Il n'y aura pas de juste peine, de bonne peine, avait prévenu le procureur à l'audience fin mars. Le tribunal a peut-être trouvé une peine équilibrée pour Maître Gombeau, l'avocat de la grand-mère de Tanguy Bouteille, l'une des 6 victimes.
J'ai pris un peu l'avis de tout le monde, mes confrères, rapidement. Apparemment, la décision a l'air d'être assez équilibrée pour être acceptée, apparemment, par tout le monde.
Après 2 jours d'audience éprouvant fin mars, très peu de familles étaient présentes pour entendre le délibéré. Jean-Marc Ollier, le père de Kevin, une autre victime, n'était pas favorable à une peine de prison, mais il est quand même déçu.
C'est léger, quoi. 50 sursis, il n'y a pas grand-chose. On s'attendait quand même à quelque chose, peut-être travaux d'intérêt généraux. Maintenant, on va voir avec nos avocats, mais on n'a pas envie d'un nouveau procès.
Même sentiment pour Maître Brice Giret, l'avocat des parents de Yoni Avi, décédé dans l'accident.
Compte tenu de l'enjeu, des conséquences graves, et puis du positionnement aussi de M. Sorel au moment des débats qui faisait état de ce trou noir toujours pour se cacher un petit peu derrière ses responsabilités. Il me semblait que le sursis probatoire avec une obligation de soins aurait été intéressant pour retrouver un peu la mémoire.
Trou noir qui avait empêché le chauffeur de reconnaître qu'il avait oublié de refermer la ridelle. Comme au mois de mars, Mathieu Sorel s'est effondré, victime à nouveau de malaise après l'annonce du jugement. À l'audience, il avait confié que cette tragédie le hantera toute sa vie.
Marie-Laurence Dalle, France Bleu, La Rochelle. Il était un peu plus de 20h quand ce soir de mai 92, un bruit sourd a mis fin au chant des supporters. 30 ans après la catastrophe de Furiani, le souvenir des 19 tués et milliers de blessés reste toujours aussi douloureux en Corse et pour les Marseillais dont l'équipe devait ce soir-là affronter Bastia. Jamais depuis on ne joue un match de foot le 5 mai, sauf ce soir parce que c'est un match européen et qui oppose les Marseillais de l'OM à Rotterdam, demi-finale de la petite Coupe d'Europe, la Ligue Europa Conférence à Marseille, où vous vous trouvez. Bonsoir Philippe Randé.
Bonsoir,
et où forcément l'ambiance est un peu particulière.
Oui, entre chagrin et passion, entre ferveur et recueillement, la ferveur d'un soir d'Europe, le recueillement, vous l'avez dit, après le drame de Furiani. En France, on le sait, depuis l'an dernier, plus aucun match, donc un professionnel ne se joue le 5 mai pour honorer la mémoire des victimes. Mais ce soir, ce match est organisé par l'UEFA, un match inscrit au calendrier depuis des mois, bien avant évidemment que l'on sache que l'OM y serait et que le match retour se jouerait en France. Du coup, forcément, l'OM a voulu rendre hommage aux victimes. 1 minute de silence, un texte lu par le speaker, un brassard noir porté par chaque joueur olympien et les dirigeants marseillais qui l'ont dit et répété aujourd'hui, c'est un devoir de mémoire.
Et à côté de cet hommage, Philippe, évidemment, il y a le sport, demi-finale donc, je le disais, de la petite Coupe d'Europe pour l'OM, et c'est un événement.
Car ici à Marseille, le football est un événement et la Coupe d'Europe est un événement dans l'événement. Alors imaginez une demi-finale retour de Coupe d'Europe au Stade Vélodrome. L'OM qui a perdu 3-2 au match aller à Rotterdam et 50 000 fans qui se sentent carrément en mission pour renverser la tendance à l'image de John.
On est obligé de parler de la Coupe d'Europe, c'est Marseille, on a dans le sang. Donc forcément, quand on joue une coupe différente de la Ligue 1, on est tout excité ce soir. On joue une demi-finale de Coupe d'Europe. On n'a pas le budget du Paris Saint-Germain qui, eux, finissent premier alors qu'ils jouent un championnat. On dirait une course de 2 chevaux, ils arrivent avec une Formule 1, ils sont contents. Bon, ben, nous, aujourd'hui, on va jouer cette coupe à fond les ballons et si on la gagnera, on la fêtera comme il se doit.
Voilà, et n'allez pas dire aux supporters qui chantent depuis 2 heures sous la pluie que cette Europa League conférence première édition est une coupe au rabais. Pour eux, certes, ce n'est pas la Ligue des Champions, mais tous en sont convaincus. C'est une occasion en or pour l'OM d'accéder à sa 6e finale européenne.
Philippe Randé en direct de Marseille. Et peut-on faire plus marseillais que cette série Plus belle la vie et son quartier du Mistral qui ressemble furieusement au panier de la cité phocéenne quand même? Eh bien, ce sera Plus belle la fin. Après 18 saisons, la série de France 3 s'arrêtera en novembre prochain.
C'est la fin, Hélène,
c'est
peut-être.
À vous, Fabienne.
Oui, c'est à moi. Bah voilà, donc c'est à moi. Et je vous le confirme, merci beaucoup. On se retrouve demain, évidemment, Hélène, dans un tout petit instant, le 18-20. La suite, c'est le téléphone sonne. On va parler obésité avec vos questions. Un œil sur le ciel d'abord.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Sébastien Léas, les averses vont devenir plus rares demain, sauf en Corse.
Oui, depuis quelques jours, les averses sont nombreuses sur les régions de l'Est, ce qui est plutôt une bonne nouvelle compte tenu de la sécheresse qui règne sur la majeure partie du pays. Mais la tendance est au retour à un temps plus sec et plus calme. Alors pour demain, on attend encore quelques passages pluvieux sur les départements près des Pyrénées. Des averses vont aussi fleurir entre l'Auvergne, les Cévennes et les Alpes, essentiellement l'après-midi. Des orages sont même attendus sur le sud des Alpes. Mais la Corse gardera un temps plus perturbé avec des pluies localement soutenues jusqu'à demain matin, puis des averses l'après-midi. Sur le reste du pays, le ciel sera plus dégagé. Le long de la Manche, le soleil sera retardé par des nuages bas et des brouillards. Des plaques de grisaille pourront d'ailleurs persister demain après-midi sur les plages du Nord-Ouest. Et puis en Bretagne, entre le midi toulousain et le pourtour méditerranéen, les éclaircies deviendront plus timides l'après-midi.
Avec des températures, Sébastien, qui vont repartir à la hausse.
Oui, on se dirige vers une séquence chaude et des températures estivales pour la semaine prochaine. Dès demain, les maximales repasseront au-dessus des normales saisonnières quasiment partout. L'après-midi, il fera 20 degrés à Clermont-Ferrand et Besançon, 21 degrés pour Saint-Quentin, Alençon, Quimper, Grenoble, Auch ou encore Nice, 22 degrés à Lille, Metz, Colmar et Angoulême, 23 degrés pour Paris, Nantes, Agen et Perpignan. On ira jusqu'à 25 degrés à Aigues-Mortes alors qu'on attend seulement 18 degrés à Solenzara et 16 degrés à Dieppe.
Sébastien Léas de Météo France. Merci beaucoup, Sébastien.